un sauna à telle ou telle occasion. Alors je crois que la forme passive existe. C'est clair que si elle est pratiquée conjointement avec la forme, disons, la forme qu'on entretient d'une autre manière, je pense qu'elle est très valable, mais il faut qu'elle soit suivie.
Tout à fait. Alors, on va peut-être commencer par parler du sauna. Son origine, quelle est-elle?
Alors, le sauna, c'est un nom presque exotique, non, mais qui sonne très bien et qui tire sur son origine de la langue finnoise. Ça désigne en somme toute une série de bains, une forme de bain qui est très répandue en Finlande, qu'on retrouve le long des rivières, qu'on retrouve près des maisons à la campagne. Et le sauna se pratique donc dans une espèce de, au départ, un petit chalet en bois, qui était soit en pleine nature, soit, comme je l'ai dit, attenant à une ferme. Et ce genre de bain était d'origine donc finnoise et permettait aux gens d'avoir une forme passive, c'est-à-dire de récupérer après un effort et de pratiquer ce genre d'activité.
D'avoir un bon tonus. En fait, je crois que le but du sauna, c'est de tonifier un petit peu.
Bon, le sauna a, je dirais, a différents buts, parmi lesquels on verra surtout un but, une détente corporelle, une détente aussi psychique. C'est un changement d'humeur finalement, parce que vous changez un peu de rythme de vie lorsque vous entrez dans un sauna. C'est aussi une désintoxication et une purification de l'organisme. Là, c'est sur un plan purement physique. Et on peut dire qu'il améliore aussi considérablement les fonctions corporelles par la fonction cardiaque et le rythme circulatoire.
On peut dire du sauna que c'est une chaleur sèche. Par opposition au hammam qui est une chaleur humide, le sauna se caractérise avant tout par une chaleur sèche. C'est bien ça.
Tout à fait. Alors, il y a une différence entre le sauna et le bain de vapeur. Dans certains centres, tels que les nôtres, les Top Fitness, nous avons les bains de vapeur et les saunas. Et souvent, les gens, lorsqu'ils voient qu'on a ces deux techniques de bain, nous posent la question, quelle est la différence? Alors, effectivement, la différence se situe surtout à ce niveau de la chaleur qui règne dans les deux bains et de l'humidité relative. Dans un sauna, vous avez une chaleur effective de 80 à 90 degrés. Dans le bain de vapeur, une chaleur de 40 à 45 degrés. L'humidité, par contre, dans un sauna, est environ de 20 à 30 %. Donc, il y a vraiment une humidité tout à fait normale, même, je dirais, en dessous d'une moyenne, puisqu'on donne la moyenne d'humidité dans un appartement, dans une maison entre 40 et 60. Et dans un bain de vapeur, on trouve une humidité qui va jusqu'à 90 %. Donc, pratiquement une saturation d'humidité. Alors, ça, c'est une des grandes différences entre les deux techniques de bain. Il y a une troisième technique maintenant qui commence à montrer le bout du nez, si je puis dire, c'est le sanarium. Alors le sanarium, c'est un bain mixte, en somme, entre le sauna et le bain de vapeur. C'est-à-dire qu'on a une température qui correspond à 50 à 60 degrés et une humidité aussi entre 50 et 60 degrés.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais pris de sauna, comment on prend un bain de sauna?
Alors bon, il y a pour le sauna une technique, disons, qui est bien particulière et qu'on devrait normalement expliquer lorsqu'une personne arrive, que ce soit dans un centre, parce que bon, un sauna, on peut le prendre dans un centre public ou on peut le prendre aussi chez soi. Je pense que la personne qui installe un sauna privé, donc dans sa maison, reçoit quand même du constructeur ou de l'installateur les indications, parce qu'un sauna peut être pris correctement ou incorrectement. Et de la prise incorrecte d'un sauna, de la pratique incorrecte en somme d'une séance de sauna, on peut en retirer que des désagréments qui peuvent aller simplement d'une sensation de mal-être à des problèmes pour dormir jusqu'à effectivement des problèmes, je dirais, cardiaques. Enfin, c'est un grand mot, mais quand même des problèmes du côté de la respiration et du souffle. Alors, toutes ces choses-là demandent et nécessitent d'avoir des conseils avant de prendre un premier sauna, parce que c'est trop important de pratiquer, de faire cette discipline sans avoir aucun conseil. Alors, comment le prend-on? La première chose, je crois qu'il s'agirait d'arriver dans le lieu là où on va prendre le sauna, d'arriver de façon calme. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui doit se pratiquer stressée, en se disant j'ai juste là une heure entre deux rendez-vous et puis je vais vite aller faire mon sauna. Je crois que là déjà c'est très mal parti, parce que dans votre tête, le but c'est de réussir dans un laps de temps donné à effectuer une discipline qui devrait normalement vous amener à être en forme. Alors là déjà c'est mauvais, c'est pareil d'ailleurs au cas où vous voudriez faire un entraînement à vélo et vous avez juste une heure placée là au milieu, on part à toute vitesse. Donc on ne se prépare pas moralement. Et physiquement, naturellement, difficilement aussi. Alors la première chose, c'est donc d'avoir du temps devant soi afin d'être prêt à aborder le sauna. La deuxième chose, je pense qu'il s'agit de savoir le temps qu'on va y passer, de se fixer une certaine norme. Un bain de sauna se pratique normalement en 3 séances. Alors, si on veut aller sur les conseils pratiques, la personne qui veut commencer son bain de sauna devra commencer par prendre une douche, c'est-à-dire devra en somme libérer son corps et sa peau de toutes les impuretés qu'ils peuvent avoir. Alors, après avoir pris une douche, on a aussi régularisé un peu la température de son corps. Il faudrait se sécher, détail peut-être technique, mais détail important, parce qu'une peau qui est sèche va plus facilement transpirer qu'une peau qui est déjà humide, parce que l'humidité qui est sur la peau va faire comme une espèce de protection autour du corps et empêcher, disons, diminuer la sudation. Ensuite, la personne doit rentrer dans la cabine. Alors, la première fois que vous rentrez dans une cabine de sauna, vous avez une impression presque d'étouffer, parce que si vous imaginez qu'il fait environ 80 degrés, prenez la plus haute température que vous rencontrez sur une plage en plein soleil, vous n'avez pas cette température-là. Donc, c'est quelque chose d'absolument suffocant au moment où vous rentrez la première fois. Alors, il s'agit de bien prendre son souffle, de respirer profondément, d'entrer dans la cabine et surtout d'être très calme. C'est-à-dire que si vous entrez, vous commencez à vous exciter en regardant à gauche, à droite, est-ce que j'ai une place, je vais aller me mettre là, je veux ceci, je veux cela. Simplement cette excitation qui est minime à l'extérieur, mais remise dans le contexte de 90 degrés ou 80 ou 90 degrés, va vous créer un état de tension sur le cœur très très gênant. Et le cœur va se mettre à battre très vite et vous avez l'impression de suffoquer. Et souvent ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent 15 secondes et puis ils ressortent en disant le sauna, c'est pas pour moi.
C'est mon cas, ouais. C'est vrai que j'ai paniqué moi la première fois.
Oui, je crois que ça arrive d'ailleurs très souvent. Mais là, on devrait vraiment mettre en garde les gens sur ce calme qu'il faut avoir lorsqu'on entre dans une...
Oui, en fait, on ne risque pas grand-chose, quoi.
Non, les risques vraiment sont extrêmement minimes. Je dirais qu'ils sont pratiquement inexistants si...
Bon, puis de toute manière, si vraiment on ne supporte pas, on sort, quoi. Il y a des gens qui ne supportent pas, je crois, le sauna. Il y a des gens qui n'en font jamais, qui préféreront justement le bain de vapeur.
Certainement que cette chaleur torride, comme je puis l'appeler... indispose des gens. Et si ce n'est pas une indisposition qui risque d'être grave, c'est une indisposition dans la tête. C'est-à-dire ils ne supportent pas cette chaleur, comme il y a des gens qui ne supportent pas d'être longtemps au soleil ou d'aller au soleil, de rester en plein soleil. Alors c'est une chose qu'il faut aussi accepter. C'est tout à fait logique. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont malades, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. C'est tout à fait clair.
Et puis donc, on y reste combien de temps
Alors je dirais que la première fois, je conseillerais de rester entre 5 et 6 minutes. Naturellement, ça veut dire 5 à 6 minutes si vous vous sentez bien. Si la personne se sent moins bien, il faut qu'elle sorte plus tôt. Maintenant, 5 à 6 minutes, c'est une bonne moyenne. Ensuite, il s'agit de sortir, de laisser quelques instants, lorsque vous êtes à l'extérieur, le corps reprendre un peu son souffle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter depuis le sauna, se précipiter, je dirais, soit dans le bassin, s'il existe dans le centre que vous fréquentez un bassin, ou de se précipiter sous la douche extrêmement froide. Parce que là, si vous n'avez jamais pratiqué cette discipline, il y a un contraste énorme qui peut, je dirais, vous provoquer des sensations d'abord désagréables et surtout ceci, mais qui pourrait à la limite être, je dirais, dangereuse un peu pour le système cardiaque. Si vraiment vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez pas votre réaction dans ces conditions-là. Donc laissez quelques instants le corps se reposer et ensuite prendre une douche. Je conseille aussi les premières fois d'y aller progressivement, c'est-à-dire la douche, de commencer par une douche tiède et progressivement d'aller jusqu'à la douche froide. Et non pas du premier coup enclencher immédiatement le jet sous le plus grand froid possible.
Toujours dans notre séance de sauna, nous venons de sortir de la première séquence. Que se passe-t-il après ? Que doit-il se passer après ?
Alors, ce qui est absolument nécessaire, c'est de s'accorder un temps de relaxation, un temps de relâche, un temps de repos. C'est pour ça que je disais au départ qu'il est inutile de vouloir faire un sauna rapidement, parce qu'alors, qu'est-ce qu'on fait ? On garde les séances dans la cabine de sauna, mais on oublie la partie relaxation. La partie relaxation devrait au minimum avoir le double du temps de la partie qu'on a passée dans la cabine. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, 5 à 6 minutes dans une première séance. Il s'agirait d'aller se relaxer 10 à 12 minutes. Et aussi, un point très important de la relaxation, c'est que les gens devraient se couvrir lorsqu'ils se relaxent. Trop souvent, dans les saunas publics, on voit les gens qui n'ont absolument rien, qui ne portent rien sur eux, ce qui est juste dans le sauna, mais ce qui est faux dans la relaxation. Et là, souvent, les gens se plaignent d'avoir froid. Il est tout à fait logique, lorsqu'on a passé dans un local qui avait 80 degrés, on arrive tout à coup dans un local qui n'en a que 27 à 28, ce qui est déjà énorme, et on a l'impression d'avoir froid. Et cette impression, elle est partiellement justifiée si vous êtes à découvert. Parce que de se relâcher complètement, de se relaxer sur une chaise relaxe, ça vous procure cette sensation de froid.
Alors, tous les combien de temps peut-on faire un sauna ?
Alors, un sauna, c'est conseillé de le faire une fois par semaine, je dirais presque au maximum, parce que plus, je crois qu'à ce moment-là, c'est exagéré. Une fois tous les 15 jours, c'est peut-être idéal. Maintenant, lors de la séance du sauna, je vous ai dit tout à l'heure comment on le faisait, une séance, et dans la même séance, il s'agirait d'aller entre 2 et 3 fois dans la cabine. En gardant soit le même laps de temps, c'est-à-dire 5 à 6 minutes, ou en faisant la deuxième série un peu plus longue et la troisième de nouveau un peu plus courte. Alors si vous faites ces trois séances en une de sauna, c'est largement suffisant pour que les bienfaits du sauna durent sur une semaine.
Alors est-ce que c'est dangereux pour le cœur, le sauna ? C'est un problème qu'on a déjà entendu.
Oui, pourquoi ? On dit souvent le sauna, j'ai des problèmes de cœur, ou on déconseille aux personnes qui ont des problèmes de cœur. Souvent, on le fait parce qu'effectivement, sous l'effet de la chaleur, les gens qui ont des problèmes cardiaques souffrent de la chaleur, c'est-à-dire ils commencent à transpirer, ils commencent à avoir des étourdissements et autres. Je crois qu'effectivement, le cœur, lorsqu'on va dans un sauna, doit effectuer un travail supplémentaire et l'organisme doit réagir à cette chaleur. Mais cet accroissement du flux sanguin qui est provoqué par le cœur peut aussi améliorer certaines choses dans le circuit sanguin. Par exemple, les gens qui ont des problèmes avec les artères coronaires, dans un sauna, toutes ces artères, comme les veines d'ailleurs, se dilatent. Et sous cet effet de la dilatation, le sang peut beaucoup mieux circuler dans le corps, ce qui évite justement ces engorgements dus à différents excès, que ce soit des excès graisseux, des excès de nicotine, des excès d'alcool, et qui provoquent souvent la fermeture des artères, où les artères deviennent bouchées, et au pire, on va jusqu'à l'infarctus. Dans le cas du sauna, ça nous permet un élargissement des artères, et le sang circulant plus facilement, il y a aussi une circulation sanguine donc meilleure. Le cœur travaille aussi travaille mieux, il évite d'être nonchalant, et ainsi on provoque une activation de tout le système cardiovasculaire. Maintenant, il est clair que les gens qui auraient des problèmes au niveau du fonctionnement du cœur, c'est-à-dire en prenant le cœur en tant que muscle, ces gens-là doivent vraiment avoir un conseil du médecin pour éviter d'avoir un accident dans un sauna, c'est tout à fait clair. Et la personne qui a eu un infarctus, d'ailleurs, je le conseille aussi de demander d'abord à son médecin si elle peut pratiquer le sauna. Bon, je dirais qu'il y a des médecins qui n'en ont jamais pratiqué eux-mêmes, qui ne savent tout juste ce que c'est, qui n'ont pas des renseignements parfaitement corrects sur le sauna. Alors, je conseillerais aussi à ces médecins peut-être de prendre des renseignements. Il y en a trop qui déconseillent tout de suite. Non, il ne faut pas faire de sauna, c'est inutile, c'est dangereux. Et puis finalement, c'est pas tout à fait juste.
Question qui va très probablement intéresser nos auditrices, est-ce qu'on peut maigrir en faisant du sauna ?
Oui, c'est la grande question. Est-ce que le bain de sauna nous rend plus svelte ? Alors je crois que si on considère le bain de sauna uniquement en tant que tel, je crois qu'il faut être honnête et répondre non. Ce serait de vendre de la poudre ou du vent aux gens que de leur dire « vous allez perdre ». Effectivement, lors d'une séance de sauna, après les trois passages qui sont conseillés, on peut perdre entre 500 et 1,5 kg de, finalement, c'est de l'eau. Alors, on peut dire entre 500, un demi-litre et un litre et demi d'eau. Mais il est clair que pratiquement la quasi-totalité de ce liquide va être rapidement recompensée parce que, bon, il va falloir après que l'on prenne quelque chose, que l'on boive, etc. Mais je dirais que...
Il ne faudrait pas boire, quoi.
Voilà, il ne faudrait pas boire. Ou alors, boire justement des jus qui n'ont pas de sucre, des jus qui comportent uniquement des sels minéraux. Dans les centres, normalement, nous avons ce genre de produits. Vous pouvez aussi les trouver d'ailleurs dans le commerce. Mais c'est clair que si après vous buvez trois verres de jus d'orange pour compenser, vous allez reprendre absolument rapidement tout ce que vous avez perdu et avec le sucre en plus. Donc en somme, on devrait avoir des purs jus de fruits non sucrés qui contiennent des vitamines et qui remplacent aussi les sels minéraux. Alors si maintenant le sauna est pris dans un contexte complet de, je dirais, de cure d'amaigrissement ou de cure pour reprendre un poids normal, alors à ce moment-là, c'est possible d'aider. Quand j'appelle dans une cure, dans un contexte complet, je veux dire par là qu'il faut avoir un entraînement suivi, une nourriture saine, équilibrée, et diminuer surtout sa nourriture. Je crois que c'est quand même là le grand mystère des gens qui prennent trop, c'est qu'ils n'en ont pas l'air, mais malgré tout, souvent, ils mangent trop. Alors l'exercice pratiqué avec, faire attention à la nourriture, avec le sauna, là on arrive dans un contexte de 3 ou 4 choses, éléments qui nous permettront peut-être de perdre du poids. Mais le sauna en lui-même, tout seul, fait perdre sur le moment. Alors psychologiquement, ou psychiquement, c'est peut-être bon de voir sur la balance qu'on a perdu 1,5 kg en une heure, mais il ne faut pas trop se leurrer, ils seront vite repris. Mais effectivement, psychiquement, ça fait du bien de se rendre compte qu'on perd quelque chose quand même au sauna.
Alors, jusqu'à quel âge on peut le pratiquer, le sauna ?
Alors, je crois que la limite d'âge, on ne peut pas la donner finalement, dans le sens qu'une personne qui a 70 ans peut très très bien pratiquer un sauna, aussi bien qu'un bain de vapeur d'ailleurs. Naturellement, si elle n'en a jamais fait dans sa vie, je ne veux pas dire que je lui déconseille de commencer comme ça à 70 ans, mais en tout cas, je lui déconseille de commencer toute seule, sans conseil, et sans avoir peut-être au préalable effectué un contrôle chez son médecin. Maintenant, la personne qui a pratiqué ceci régulièrement, il n'y a pas de raison si elle le fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant les temps de repos et les temps dans la cabine, en diminuant peut-être un peu le temps dans la cabine pour quand même ne pas trop forcer justement de ce côté-là son rythme cardiaque, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème et je crois qu'on peut même conseiller à cette personne de le faire. En effet, le fait d'être dans le sauna, je dirais, provoque une accélération de tout le système sanguin et de toute une stimulation qui peut faire que du bien à son corps.
Et les enfants, ils peuvent aller dans les saunas ?
Alors, les enfants peuvent tout à fait aller dans le sauna. Je crois qu'on ne le pratique pas en général dans les centres publics. Et je crois que ça, c'est logique. Il est une question là, peut-être, de moralité. On ne va pas mélanger des jeunes enfants avec des adultes. Mais dans un cadre privé, si vous possédez à la maison un sauna privé ou chez des amis ou de la parenté, les enfants ont souvent beaucoup de plaisir à pratiquer le sauna. Ils se sentent bien parce qu'eux, les effets, ils les sentent alors absolument... je dirais jusque dans la profondeur, il le ressent tout à fait comme un jeune animal sans se poser de questions. Et là, je conseille vraiment de le faire, mais naturellement d'être avec, de lui indiquer le temps qu'il doit rester, de lui indiquer comment est-ce qu'il doit pratiquer ça et pas de les laisser faire un sauna tout seul et qu'il reste 35 minutes là-dedans ou une heure parce qu'il se sent à l'aise ou qu'il le pratique mal. Mais dans un lieu public, c'est clair que je déconseille de le faire parce que c'est... Question de moralité, question d'endroit, c'est pas très agréable.
On va maintenant évoquer le bain de vapeur. On en rencontre très peu souvent des bains vapeur. Dans peu de centres de fitness, on trouve à la fois le sauna, à la fois le bain de vapeur. Alors, il y a une raison particulière à cela ?
Il y a une raison, je dirais, particulière, il y a une raison essentielle, c'est souvent une question financière. Effectivement, le bain de vapeur, de par sa conception, de par la technique utilisée, demande un investissement beaucoup plus grand que le sauna. Le sauna, vous avez finalement une cage, une petite cabane en bois avec un four, enfin un calorifère, qui produit de la chaleur. Et c'est tout, c'est un système hyper simple, il n'y a aucune complication. Un bain de vapeur, techniquement, demande une infrastructure énorme, soit au niveau de l'élimination de l'eau, au niveau de l'élimination des vapeurs, au niveau de la production de la vapeur. Cette vapeur qui est produite doit être contrôlée par un mini-ordinateur, si je puis m'exprimer ainsi, qui contrôle les températures extérieures, les températures intérieures, le pourcentage de vapeur, le pourcentage d'eau amenée. Enfin, c'est vraiment un système assez compliqué. Alors, c'est ce qui fait que de nombreux centres ne mettent pas le bain de vapeur, c'est que techniquement, et du point de vue, je dirais, financement, c'est nettement plus coûteux et nettement plus difficile à gérer qu'un sauna.
À signaler quand même qu'au Top Fitness donc de Givisiez, vous possédez à la fois sauna et bain de vapeur.
Voilà, effectivement, au Top Fitness de Givisiez et à celui de Bulle, nous avons les deux. À Düdingen, pour le moment, nous n'avons que le sauna. C'est une question de construction du bâtiment et pour des questions techniques, nous devons attendre. Mais il est clair que le sanarium peut être un complément puisque c'est un peu un moyen terme. Et les cabines de sanarium vont se répandre progressivement pour remplacer, je dirais faire semblant un peu de remplacer le bain de vapeur, appelé aussi le hammam.
Alors, quelle est la différence, on l'a dit, hein, chaleur humide, chaleur sèche pour le sauna, chaleur humide pour le hammam. Comment on le pratique alors le hammam cette fois? Est-ce que c'est les mêmes conditions?
Alors, les conditions de la pratique du hammam sont pratiquement les mêmes, du bain de vapeur, je dirais, parce que le hammam, c'est ce qui nous vient des pays arabes. Et on ne peut pas comparer, disons, si sur la technique, on peut comparer un hammam à un bain de vapeur ou sur les effets, mais sur l'endroit, on ne peut pas le comparer. Le hammam, c'est un endroit vraiment très agréable, très grand, vaste. Tout est fait en mosaïque, en faïence, alors que, bon, dans les locaux que nous avons, à l'heure actuelle, aussi pour des questions effectivement de coûts, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre des locaux de 100 à 200 mètres carrés. Alors, mais au niveau de la pratique, c'est exactement pareil, un hammam ou un bain de vapeur. Mais on va appeler bain de vapeur parce qu'on se trouve quand même chez nous. En Suisse, on va lui donner le nom qui est le plus usité. Alors, le bain de vapeur, pour se pratiquer, c'est un peu comme le sauna. Je dirais que les trois séances, c'est aussi un moyen terme tout à fait agréable. Je pense que dans un bain de vapeur, on va pouvoir rester un peu plus longtemps parce que la chaleur étant nettement plus supportable, on va avoir moins de problèmes du côté de la respiration, du côté du battement cardiaque. Donc, on supportera mieux. On aura aussi une sensation de mieux-être dans le bain de vapeur que l'on peut avoir dans le sauna. Alors voilà pour l'essentiel. Maintenant, de sortir, de prendre une douche, de se relaxer, je crois que là, il n'y a pas de changement finalement. C'est exactement le même principe.
Quel est le plus sain des deux?
Alors ça, c'est une question piège parce que finalement, je crois que suivant les effets qu'on recherche, on peut dire que les deux sont sains. Alors je dirais que si vous êtes en période d'hiver, que vous avez un rhume ou que vous voulez essayer d'humidifier un peu vos bronches, parce que souvent dans les périodes hivernales avec les chauffages, maintenant qu'on a chauffage sol et autres électriques, on a beaucoup plus de problèmes dans les maisons d'humidité, donc il fait trop sec et les bronches et tout l'appareil respiratoire souffrent de cette sécheresse. La même chose quand on respire toutes ces poussières qu'on respire. Alors là, je crois que le bain de vapeur pour cet effet-là est supérieur au sauna. Maintenant, si on recherche, je dirais, pour le système sanguin, pour le système cardiovasculaire, pour la circulation du sang, pour les vaisseaux, à ce moment-là, je dirais que le sauna est préférable. Dans le domaine du stress, de la relaxation, pour acquérir de nouveau un petit peu de calme, alors l'un et l'autre sont aussi valables l'un que l'autre. Finalement, l'idéal, c'est de pouvoir faire dans une séance les deux. Et là, je conseillerais de commencer par le sauna et de terminer par le bain de vapeur.
Écoutez, c'est une très très bonne conclusion. On vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir.
À une prochaine fois. Au revoir, Véronique.